Bonjour à tous. Le texte que nous allons étudier ce matin se trouve dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Nous faisons la lecture. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, « ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « ta fille est morte. » Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Dans cet évangile de Marc, nous regardons plusieurs personnes qui deviennent disciples de Jésus. Ici, nous avons deux personnes qui vont être fortement touchées par Jésus. Deux personnes, mais Marc le présente comme un seul récit. Vous avez vu ça déjà, il le présente comme un sandwich en quelque sorte. D'abord la rencontre avec Jairus, et puis en chemin il y a la rencontre avec cette autre femme, et puis on reprend le récit de Jairus. Donc Marc les tient ensemble pour nous. Et puis dans le récit, Marc utilise les mêmes mots lorsque Jésus parle aux deux personnes. La femme vient tout effrayée et Jésus dit « ta foi t'a sauvée ». Et puis à Jairus, Jésus dit avec les mêmes mots en grec « ne crains pas, crois seulement ». Donc les deux ont de la crainte, de la frayeur et les deux vont vivre la foi aussi. Donc ces deux personnes sont très différentes, avec des situations très différentes, mais tous les deux vont vivre ce mélange de crainte et de foi. Tous les deux vont passer de la crainte à la foi avec Jésus. Et même ce qui est fort dans ce chapitre, dans cette histoire, c'est que Jésus va aller jusqu'à créer, provoquer des situations où ils vont devoir surmonter leur crainte, où ils vont devoir lui faire confiance. C'est Jésus qui provoque, qui crée la situation pour les amener de la crainte à la foi. Et d'ailleurs, si ce genre de choses vous intéresse, cette histoire fait partie de notre sandwich. Marc aime les sandwichs et avec des thèmes. Et si vous lisez la Bible en 60 jours, vous allez commencer à percevoir de ces choses qu'il y a des thèmes. Et Les disciples eux-mêmes doivent vivre ces mêmes choses. Quand Jésus fait un miracle dans les évangiles, non seulement il le fait à l'intention pour le bien de Jairus et de cette femme, par exemple, mais il le fait pour ses disciples qui l'accompagnent. C'est aussi pour leur foi. Parce qu'à la fin du chapitre 4, il leur avait dit la même chose. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Ça, c'est dans une barque, en chapitre 4. Et puis plus tard, dans une autre barque, chapitre 6, les mêmes choses, il va dire, mais ils sont remplis de peur et de crainte. Il dit, mais pourquoi ne voulez-vous pas croire? Donc, Jésus veut amener les personnes de la crainte à la foi. C'est vrai, lorsque les personnes s'approchent de Jésus et s'interrogent sur le fait de devenir son disciple ou pas, il y a souvent des objections et des obstacles intellectuels. Et ça, il faut y répondre, on essaie d'apporter des réponses. Peut-être que vous avez des doutes, des objections, des questionnements qui relèvent des raisonnements. Et c'est parfois ce qui empêche les personnes de faire un pas de plus avec Jésus. Mais souvent, à un autre niveau et un autre obstacle, et un autre problème, et une autre difficulté, c'est la crainte, c'est la peur. De ce que cela implique de le suivre, de ce que cela implique de confesser son nom. Si je me lance avec Jésus, qu'est-ce que les autres penseraient de moi? Si je suis Jésus, si je fais appel à lui, est-ce qu'il va me décevoir? Est-ce que je vais devoir parler devant tout le monde? Est-ce que je vais devoir lâcher prise et ne plus être au contrôle de la situation? Ce sont de telles questions que ces deux personnes ont dû vivre et gérer. Mais Jésus les amène de la crainte à la foi. Alors mettons-nous à la place de ces personnes ce matin et voyons comment eux ils sont passés de la crainte à la foi. Nous allons voir tout d'abord le défi d'accéder à Jésus. Ensuite le défi d'attendre Jésus et enfin le dépassement des attentes. Le défi d'accéder à Jésus. Ici, les deux personnes, et c'est Marc qui les met en parallèle, les deux personnes, à un moment donné, doivent, au milieu d'une grande foule, doivent se jeter aux pieds de Jésus. Jairus se jette aux pieds de Jésus dans les premiers versets, et la femme aussi se jette aux pieds de Jésus au milieu de cette grande foule. Et autant pour Jairus que pour cette fille, ça va être quand même un défi de se jeter aux pieds de Jésus, au milieu de tous ces observateurs, au milieu de toute cette foule. Mais l'accès à Jésus, le fait de venir à Jésus, représente des défis différents pour Jairus et pour cette femme. Jairus et la femme viennent de deux extrêmes un peu de la société, des échelons de la société. Jairus, lui, il est chef de synagogue, il est respecté, il est connu, on connaît son nom, tout le monde connaît Jairus. Il est chef de la synagogue qui était l'endroit le plus important un peu dans la ville, la cité juive. Il en est un des chefs. Mais à l'opposé, cette femme inconnue, à cause de sa condition, elle est plutôt exclue. Elle est pauvre, elle ayant dépensé tout son argent. Elle est inconnue, on ne connaît même pas son nom. Donc deux personnes très différentes. Alors, et les deux vont venir à Jésus. Pourquoi est-ce un défi pour Jairus d'accéder à Jésus? Eh bien, lui, c'est parce qu'il est connu, il est important. C'est un chef de synagogue. Qu'est-ce que les gens vont penser de lui le sabbat prochain, dans la synagogue, de le voir cet homme, au milieu de tout le monde, se jeter aux pieds? C'est quand même pas évident, même de nos jours, de se jeter aux pieds de quelqu'un et lui demander quelque chose. Surtout qu'à ce moment, de plus en plus, la position officielle des médias et des pouvoirs, c'était de mépriser Jésus, de se tenir à l'écart, de le critiquer. Alors pour Jairus de se jeter à ses pieds, c'est un grand geste pour lui. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Eh bien, une situation très dramatique dans sa vie. Luc dit que c'était sa fille unique, une fille âgée de 12 ans qui est sur le point de mourir. Là, il est prêt à surmonter cette crainte et à supplier Jésus. Peut-être c'est ce qu'il nous faut pour surmonter certaines craintes pour venir à Jésus. Un élément dramatique de notre vie. Aujourd'hui, beaucoup optent pour l'autosuffisance. On n'a pas besoin de la religion, de la foi, de Jésus pour s'en sortir. Je pense que Jairus aurait dit ça pendant des années. Mais là, là ça ne marche plus. Et là, il est, quelque chose le pousse. Il n'a pas peur de se jeter aux pieds de Jésus. Je lis en ce moment la biographie de la femme de C.S. Lewis, cette apologète, philosophe, écrivain. Et avant de devenir sa femme, plus tard dans la vie, elle était une communiste, athée, militante. Et dans cette idée que la religion, la foi, c'est une faiblesse, c'est une béquille, cette idée qu'on trouve souvent dans le communisme, elle disait, dans un article, elle disait, à l'époque, avant de connaître Jésus, elle disait « L'ultime beauté, c'est de rester debout. L'ultime laideur, c'est de tomber à genoux. » Elle trouvait ça moche, elle trouvait ça faible de voir des gens s'agenouiller, se jeter comme Jairus fait au pied de Jésus, demander secours. L'ultime beauté, c'est de rester debout face à tout ce que la vie nous envoie, jusqu'à ce qu'elle-même connaisse une situation dramatique en famille et qu'elle se trouve elle-même sur ses genoux en train de prier. Et là, c'était plus l'ultime laideur, c'était l'ultime secours de tourner à Dieu. Donc, c'est un défi pour Jairus d'accéder à Jésus de sa position, de son importance. Par contre, si lui, il va devoir s'humilier, elle va devoir oser. Et c'est tout un défi pour elle d'accéder à Jésus. Mais c'est une autre manière. Il y a d'autres craintes pour elle à surmonter pour venir à Jésus. La question qu'elle doit se poser, est-ce que je vais pouvoir même y accéder, vu ma condition ? Elle avait cette perte de sang, c'était une condition physique handicapante, et qui la rendait, d'après les lois de Moïse, qui la rendait impure. Donc socialement, elle est exclue, elle est impure. Dans l'Ancien Testament, les causes majeures qui rendaient une personne impure, selon les lois cérémonielles, c'était une maladie comme la lèpre, c'était le contact avec un mort, et c'était une perte, un flux du corps qui s'arrêtait pas. Ça, c'était les grandes impuretés qu'on trouve dans la loi de Moïse. Il est intéressant de voir que Jésus se met en contact avec toutes ces personnes dans ces chapitres. Il va toucher un lèpre, il va toucher une femme avec cette perte de sang, et il va toucher un mort sans lui devenir impur, mais en apportant le secours. Mais cette femme, c'est tout un défi d'accéder à Jésus de par, puisqu'elle vient de l'autre extrême de la société. Pour accéder à Jésus, tout le monde va laisser passer Jairus, on va lui frayer un chemin, aucun problème. Personne ne va laisser passer cette femme. Alors son plan, c'est de faire la chose aussi discrètement que possible. Je vais passer par derrière. Personne ne va pouvoir me remarquer et je vais juste toucher le bord de son vêtement. Il vous est peut-être déjà arrivé de vouloir faire quelque chose de manière discrète, que personne ne remarque, et puis finalement vous faites tomber le plat ou tous les regards se tournent vers vous, et là c'est complètement raté. Autant le but c'est de faire discrètement, maintenant tout le monde vous voit. Mais c'est ce que cette femme va vivre. En tout cas, on peut dire que pour Jairus et pour la femme, venir à Jésus représenter, c'était difficile, mais pour des raisons différentes. Et c'est encore vrai pour nous, pour notre monde aujourd'hui. Certains d'entre nous hésitent à venir à Jésus, certains d'entre nous hésitent à se jeter à ses pieds, pensant que nous pouvons encore gérer nous-mêmes, pensant que nous pouvons encore être nos propres chefs, pensant que nous avons encore une place importante à préserver, notre réputation, notre bien-être. Certaines donc hésitent à venir à Jésus pour ces raisons-là. D'autres hésitent à venir à Jésus pensant que c'est trop pour Jésus, la situation est trop désespérée, ou qu'on n'est pas assez important, ou que Jésus ne s'intéresse pas à nous. Donc le défi d'accéder à Jésus, les craintes pour y accéder, nous trouvons dans cette histoire, le fait que Marc les met ensemble, montre que Jésus a du temps pour tous. Il veut montrer de la compassion pour tous les deux, autant ceux qui sont importants et chefs, autant ceux qui ne sont pas importants et inconnus. Et pour les deux, c'était l'occasion d'exercer un premier pas de foi que de venir à Jésus, que de se jeter à ses pieds. Ensuite, nous voyons le défi d'attendre Jésus. Dans ces deux récits, il y a toute une question du timing, de la patience et la manière que Jésus va imposer une certaine attente pour les deux personnes avant de les secourir. Alors, dans un cas, c'est une situation très urgente. Dans un autre cas, c'est une situation qui dure depuis longtemps, depuis 12 ans. Et les deux vont devoir vivre la foi dans ces moments. Tous les deux peuvent avoir des craintes, des luttes concernant pourquoi Dieu s'attarde. On vient de chanter que Dieu répond sans délai. Alors c'est vrai, mais est-ce que nous avons toujours, de notre point de vue, est-ce que c'est toujours sans délai? Est-ce que ces 12 ans que cette femme a vécu, c'était sans délai? Alors voyons ces deux situations et voyons un peu le timing qu'ils vont devoir gérer, vivre par la foi. Tout d'abord, Marc présente une situation très urgente. La situation de Jairus est très urgente. Et on le sent dans ses mots. Il lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Et puis Jésus se lève tout de suite pour l'accompagner. Donc on dirait que c'est bon, l'urgence est en train d'être gérée. Et puis Jésus s'arrête en chemin pour gérer le cas de cette femme, pour lui parler, pour la guérir. On imagine Jairus qui panique presque. Et visiblement, il y a des craintes dans son cœur, parce que le fait que Jésus s'arrête, c'est là qu'on vient lui dire « Ah ben, c'est trop tard. » Et on imagine les déceptions, les incompréhensions de Jairus. Des craintes. Certainement, il y avait des craintes dans son cœur, parce que c'est ce que Jésus dit. Sans tenir compte de ses paroles, verset 36, il dit au chef « Ne crains pas. » Donc Jairus va devoir gérer ses craintes et ses luttes et ses questionnements et ses doutes par rapport à pourquoi Jésus ne s'est pas dépêché plus que ça. Et quand même, par la foi, il va suivre Jésus jusqu'à la maison. Donc nous, parfois, nous vivons une situation dramatique, une situation d'urgence, puis on s'étonne pourquoi il n'y a pas une réponse plus rapide, plus immédiate. Il faut apprendre cette foi qui peut attendre Jésus et son timing parfait. Voyons maintenant cette femme. Pour elle, ce n'est pas l'urgence. Là, ça fait 12 ans qu'elle a cette perte de sang. 5 minutes de plus, 30 minutes de plus, un jour de plus, qu'est-ce que ça va changer? Mais on nous apprend qu'elle avait beaucoup souffert pendant toutes ces années. Pourquoi ces 12 ans sans solution? J'imagine qu'elle avait déjà prié à Dieu, avait cherché recours auprès des médecins. Verset 26 dit qu'elle a beaucoup souffert, non seulement de sa maladie, mais elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est vrai, on est reconnaissant pour les médecins, mais quand les médecins ne savent pas la solution, ne savent pas le problème et ne savent pas la solution, ne connaissent pas la solution, on peut souffrir d'eux autant que de la maladie. J'ai l'impression de comprendre un peu ce que cette femme a vécu en vivant un peu à l'hôpital. On peut imaginer cette femme qui, après 12 ans d'efforts, 12 ans de dépenses, c'est désespéré. Si je fais encore une tentative auprès de cet homme Jésus, je vais être encore déçu. Ça va tarder encore. Mais Jésus va arrêter toute la procession et s'intéresser à son cas. Ce qui nous étonne, tout médecin, tout hôpital accorde la priorité au cas urgent et font attendre les autres. Pourquoi Jésus fait tout le contraire? Il gère la femme avec un problème depuis 12 ans et il met Jairus en attente, lui qui avait l'urgence. Est-ce que c'était méchant de la part de Jésus? Eh bien non, ce qu'il fait, c'est et pour le bien de Jairus, et pour le bien de cette femme. Parce qu'il s'arrête en chemin. Quand il sent que cette femme l'avait touché, cette touche de la foi, il sent que Une force est sortie de lui. Bien sûr, il sait qu'il a touché, mais il pose la question, qui m'a touché? Ce serait comme un, puisqu'on est à Toulouse, ce serait comme un rugbyman qui, au milieu de la mêlée, dit, ah, on arrête le jeu, qui m'a touché? Pourquoi il arrête tout, sachant qu'il y a une urgence à gérer et que cette femme veut rester la plus discrète que possible? Cette femme veut rester discrète, vu son problème. C'était peut-être un problème un peu intime qu'elle ne veut pas diffuser, partager avec tout le monde. Elle-même sait qu'elle est socialement inconnue, exclue, donc elle veut rester discrète et Jésus veut pas qu'elle reste discrète. Pourquoi? Eh bien, par ce qu'il fait, en la repérant dans la foule, en la faisant témoigner, en quelque sorte, il va pouvoir la restaurer complètement. Non seulement physiquement, là, elle est guérie, mais une étape encore plus importante qu'il veut accorder à cette femme, c'est qu'une restauration sociale, une restauration dans la communauté. Parce que d'après les lois, voilà, elle était impure, elle était exclue. Mais en la faisant venir devant tout le monde, il va pouvoir prononcer ces paroles, ces belles paroles. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ma fille, c'est pas mal. C'est la seule fois dans les évangiles où Jésus appelle quelqu'un sa fille. Marc ne précise pas, j'ai en tête, dans ma pensée, cette femme est plus âgée que Jésus. Avec les quelques détails que nous avons, ça fait déjà 12 ans qu'elle a ce problème, elle dépense tout son argent. Donc je me dis, c'est plus qu'une jeune fille, c'est plus qu'une ado. Elle doit être plus âgée que Jésus, lui dans la trentaine, et il l'appelle sa fille. Pourquoi il appelle sa fille? D'où le titre, la fille de Jairus et la fille de Jésus. Bien sûr, Jésus n'avait pas des enfants proprement dit, mais il appelle cette femme sa fille. Eh bien, c'est parce qu'il est en train de la restaurer complètement, il est en train de l'inclure dans la famille de Dieu, la maison de Dieu. Et sa restauration est complète, non seulement une guérison, mais elle qui avait vécu toutes ces années exclue, elle va pouvoir être accueillie, validée. Après une telle passée, le Dieu de l'univers vous appelle sa fille, c'est quand même fort, c'est bouleversant, c'est merveilleux. Et si Jésus s'est arrêté, a pris le temps de le faire venir devant, c'était justement pour que sa restauration soit bien au-delà de ce qu'elle a imaginé. Elle qui voulait rester discrète, elle va repartir vraiment en paix, parce qu'elle est complètement restaurée. C'était pour le bien de cette femme, c'était aussi pour le bien de Jairus, parce que lui va devoir vivre une foi complète. Lui, en tant que chef de synagogue, il est peut-être habitué à justement être le chef, à contrôler, gérer les choses, mais là, il ne maîtrise plus rien, puisque sa fille déjà malade, il sent son incapacité, et maintenant sa fille est morte, il n'y a plus rien à faire, il ne maîtrise plus rien, mais lui-même va devoir exercer une foi où Jésus, c'est plus qu'un simple guérisseur, il va découvrir tout ce qu'est Jésus. Et c'est là où nous arrivons au dépassement des attentes, qui est la belle partie de cette histoire. Parce que dans les deux cas, Jésus va bien au-delà des attentes de ces personnes. Jairus, il vient pour une guérison. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit une résurrection. Cette femme, elle vient pour une guérison discrète. Qu'est-ce qu'elle reçoit? Non seulement la guérison, mais elle reçoit une restauration, une réintégration, une validation publique qu'elle ne s'attendait pas. Et j'aime bien, c'est Tim Keller dans son commentaire, c'est ce qu'il dit par rapport à ce passage. Il dit, lorsqu'on vient à Jésus, il exige de nous bien plus qu'on s'attendait, mais il nous donne bien plus qu'on espérait. Quand on vient à Jésus, il demande de nous bien plus qu'on pensait. Pour cette femme, elle pensait faire discrètement, elle va devoir parler publiquement. Pour Jairus, il pense peut-être qu'il peut venir tout de suite, il va devoir attendre et ça va être terrible pour son cœur et ses craintes et ses luttes. Mais Jésus, en leur demandant ce niveau de foi, eh bien, il leur donne bien plus qu'ils espéraient. Dans un cas, une résurrection, dans un autre cas, une réintégration totale. Regardez comment ce récit termine. C'est plus qu'une guérison, vous voyez. Jairus trouve assez de foi pour continuer le chemin. Sa fille est morte, mais Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement, allons-y. » Et puis, ils vont vers cette maison, ils vont vers chez Jairus, où il y a maintenant un défunt, un mort. Et ce qui étonne tout le monde, c'est que Jésus aborde tout cela avec une certaine légèreté qui les choque. Il dit « Mais non, pourquoi vous... » Il y a toutes ces pleureuses professionnellement. Voilà, le deuil était très important dans ces cultures, donc rapidement, il y a toujours tout ce bruit de deuil. Et Jésus balaye tout ça et dit « Mais pourquoi vous faites ça ? Elle est pas morte, elle dort. » Alors eux, ils sont même choqués de sa démarche, parce que normalement, il ne faut pas faire des blagues comme ça. C'est vraiment une situation triste. Et lui, il prend ça à la légère. Et puis, il entre avec Pierre, Jacques et Jean et les parents dans la chambre. Et puis, verset 41, ces paroles qui ont inspiré le chant, que nous avons chanté aussi, qui dit, il a saisi par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » C'est assez rare que les auteurs nous donnent l'original en araméen, en hébreu. Bon, c'était l'hébreu de l'époque, araméen. En général, ils traduisent normalement les paroles de Jésus. Mais il y a des cas rares où ils laissent l'expression d'origine. Pourquoi ils font ça? En Marc, il n'y a pas beaucoup de fois. Il y a cette fois-ci, il y a une autre fois, lorsque Jésus est sur la croix, quand il dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi ne pas traduire directement toutes les autres paroles? Les discours de Jésus sont traduits normalement, directement. Pourquoi les auteurs nous gardent l'original? Déjà, c'est une touche du fait que c'était des témoins oculaires. Hein. Pierre, Jacques et Jean étaient là. C'est eux qui ont pu entendre ces paroles et les relater. Jésus, quand il a fait ses miracles, il a toujours fait devant témoins pour être vérifié, pour être confirmé, contrairement à beaucoup de guérisseurs ou de charlatans. Mais ça va plus loin que ça. Clairement, ces personnes, ils ont été frappés par l'expression. Si vraiment l'expression voulait simplement dire « jeune fille, lève-toi », ils l'auraient mis comme ça. Mais « Talita kumi », ça les a touchés. Parce que « Talita », c'est une... c'est pour parler d'une fille, mais c'est un mot doux. C'est peut-être mieux traduit « ma puce » ou « choupinette ». En ce moment, chaque infirmière qui rentre dans la chambre de Constance, c'est un nouveau titre. Crevette, choupinette, puce, pucette. Bon, d'accord, je suis là pour apprendre du vocabulaire français. Talita, c'est plus dans ce registre-là que fille. Bon, fille, c'est bien, mais Talita a une connotation plus tendre, choupinette. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il entre dans la chambre, il se met à côté du lit. Et c'est comme s'il dit « Coucou ma puce, c'est l'heure de se lever. » C'est-à-dire, c'est une phrase que des parents auraient dit le matin d'une belle journée, après un doux nuit de sommeil. C'est ce qu'un parent aurait dit à son enfant. Alors, dans un sens, si cette fille est morte, puisque cette fille est morte, c'est la dernière chose qu'il convient de dire ou de faire. La mort n'a rien de mignonne. Un cadavre, c'est pas une choupinette. Donc, ce que nous voyons, c'est pour cette famille, Jésus transforme quelque chose d'affreux en quelque chose de doux, de mignon. Et c'est frappant. C'est pour ça qu'ils ont retenu cette phrase, mais il a dit « Talita kumi » à cette fille. Il transforme quelque chose d'affreux en quelque chose de merveilleux. Et si Marc nous laisse, c'est aussi pour nous aider à saisir cette même vérité pour nous-mêmes. Vous savez bien que les miracles de Jésus ne sont pas des fins en soi. Sinon, on aurait dit, mais pourquoi il ne guérit pas tous les malades? Pourquoi il ne ressuscite pas tous les morts depuis 2000 ans? Mais le but, c'était jamais simplement de faire des guérisons. Les miracles de Jésus sont des paraboles, des images qui pointent vers son véritable action, vers sa vraie mission. Et Marc nous donne un petit indice pour terminer. En verset 23, après avoir ressuscité cette fille, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Pour que personne ne sache la chose. Vous avez toujours été étonnés de ces phrases qu'on trouve à plusieurs reprises dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Marc, où Jésus dit aux gens de ne pas parler de son œuvre. Et vous dites, mais je ne comprends pas. Tous mes pasteurs disent qu'il faut évangéliser constamment, qu'il faut dire à tout le monde, qu'il faut publier la bonne nouvelle. Et ici, Jésus est en train de dire aux gens de ne rien dire. Pourquoi? Eh bien, on voit ça dans l'évangile de Marc, que souvent Jésus dit aux gens de ne pas diffuser, de ne pas raconter les nouvelles d'une guérison. Alors, on s'est beaucoup demandé, mais pourquoi de telles instructions? Mais certainement pour que les gens n'aient pas des fausses attentes sur ce qu'il est venu faire. Il ne voulait pas que les gens viennent à lui simplement pour des guérisons physiques. Il ne voulait pas que les gens aient de la confusion dans leur esprit sur la raison de sa venue. Et qu'ils adoptent une conception prématurée de ce qu'est le Messie. Parce que Jésus avait une mission. Et sa vraie mission, non seulement des guérisons, de toucher des familles comme ça, mais sa vraie mission, c'était d'aller à la croix et mourir et ressusciter. Et puisque c'était sa mission, il ne voulait pas que les gens confondent la chose. C'est pour ça qu'il souvent il y avait des recommandations de ne pas dire la chose. Une fois que Jésus est mort et ressuscité, là, c'est clair, il faut raconter à tout le monde ce qu'il a fait pour nous à la croix. Mais c'est ainsi que Marc déjà nous prépare à comprendre où Jésus veut en venir, où il est en train d'aller. Parce que lui était allé à la croix, il était allé à la mort, justement, pour accomplir le fond de ce miracle. Il était allé à la mort pour le transformer en quelque chose de doux pour nous, pour remplacer nos craintes et nos peurs avec l'étonnement, la joie, la reconnaissance, comme il a fait pour cette famille. Lui, il a affronté la croix, cette mort affreuse, cet ennemi, et pour nous, il le transforme en quelque chose de doux, de mignon, de chou, puisqu'il nous donne accès à Dieu, à l'éternité. Lorsqu'il était sur la croix, là aussi, il a été abandonné, il a été exclu, il a été traité d'impur pour nous donner la pureté, pour nous rétablir, nous restaurer complètement dans tout notre être, pour nous appeler ses fils, ses filles. C'est à la croix qu'une force est sortie de lui pour guérir le monde. Et nous pouvons saisir cette offre de guérison et de salut qui vient de la croix. Voilà ce que Marc veut nous montrer par la fille de Jairus et la fille de Jésus. Dans ma lointaine jeunesse, j'aimais faire un peu d'escalade. Et il y avait un mur qu'on aimait particulièrement bien avec mes amis, mon frère. Et il fallait monter sur le mur. À un moment, Pour passer d'une prise à l'autre, il fallait vraiment lâcher une prise, un peu se laisser dans le vide pour attraper l'autre prise. Et c'était assez alarmant de se trouver dans une telle position, suspendu là sur le vide, pour attraper la prise. Et pour réussir cette montée, il ne fallait pas avoir beaucoup de force, il fallait avoir confiance dans la prise. Mais à un moment, la seule façon d'avancer, c'est de lâcher la prise pour attraper la suivante. Alors, combien de gens on voyait là, bloqués, à juste un endroit en particulier, en train de trembler, effrayés, parce qu'ils étaient coincés, ils n'arrivaient pas à lâcher. Et plus qu'ils restaient, plus ils étaient effrayés, alors que la solution, c'était de lâcher et prendre l'autre. Et la foi, c'est ainsi. Il y a un moment où il faut lâcher prise sur nos craintes, nos problèmes, et se confier complètement en Jésus. Comme dans l'escalade, il y avait quand même à tout moment une corde solide qui nous tenait. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est... Notre foi est là pour prendre la prise de Jésus-Christ. Et même lorsque nous avons des craintes, trop de craintes, il y a la corde solide de la croix qui nous tient et qui nous garde. Et si nous plaçons notre confiance en lui, eh bien, il nous porte, il nous dirige, il nous fait marcher dans ses chemins et il nous bénit. Il nous apporte la solution, la guérison, la réintégration dans sa famille. Que nous puissions avoir la foi de Jairus, la foi de cette femme, pour encore s'approcher de Jésus et le suivre.